Bonsoir et heureuse de vous retrouver après quelques semaines de congé. La Tanzanie menace de vendre aux enchères les maisons préfabriquées commandées par la RDC bloquées depuis 2020 à Dar es Salaam. Ces maisons avaient été commandées pour des militaires et policiers congolais dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État Félix Tshisekedi. Selon les autorités tanzaniennes, les droits des douanes ainsi que d'importants frais d'entreposage et des pénalités n'ont jamais été payés par l'État congolais malgré plusieurs correspondances envoyées au gouvernement congolais. Quelle analyse faites-vous de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 11 juillet 2022 qui coïncide avec la journée africaine des luttes contre la corruption. Pour en parler, nous avons dans cette émission Maître Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle. Maître Georges Kapiamba, bonsoir. Maître Georges Kapiamba, bonsoir. Je crois que nous l'avons perdu. La réalisation va essayer de le rappeler. Ernest Mpararo, secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, LICOCO en sigle. Il est aussi le point focal en RDC de l'ONG Transparency International. Ernest Mpararo, bonsoir.
Oui, bonsoir madame.
Et le professeur Jean-Claude Chilumbaï, député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Professeur Jean-Claude Chilumbaï, bonsoir.
Bonsoir, madame.
À Bukavu, au sud Kivu, vous nous suivez sous la 95.3. Et pour vous qui êtes à l'étranger, rejoignez-nous sur www.radio-okapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, le gouvernement tanzanien menace de vendre aux enchères les maisons préfabriquées de la RDC, des pièces de construction des maisons dans le cadre du programme des 100 jours initié par le président de la République, Félix Tshisekedi. Plus de détails avec vous, Jiré Anania.
D'après plusieurs sources et plusieurs médias, ces maisons préfabriquées traînent depuis plusieurs mois dans le port tanzanien malgré des multiples correspondances envoyées au gouvernement congolais. Il s'agit au total de plus de 200 conteneurs qui semblent être abandonnés. Ils sont bloqués depuis 2020 dans les entrepôts du district des Ubungo à Dar es Salaam. D'après ces sources, les droits des douanes afférents n'avaient pas été payés par l'État congolais ni la société Samibo Congo de l'homme d'affaires libanais Samil Jamal qui avait obtenu le marché de la construction des maisons des militaires dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République. L'entreposage de ces matériels ainsi que des pénalités représenterait de sommes importantes. D'autres conteneurs seraient bloqués par le service de douane en Angola et à Matadi en RDC. Rappelons que l'ancien directeur des cabinets du président de la République, Vital Kamerhe, et l'homme d'affaires Samil Jamal avaient été condamnés par la justice congolaise dans cette affaire des constructions de maisons préfabriquées avant d'être acquittés par la même justice.
Merci Jiré Alania. Maître Georges Kapiamba, vous êtes en ligne, bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. La Tanzanie menace de vendre aux enchères les maisons préfabriquées commandées par la RDC et bloquées depuis 2020 à Dar es Salaam, au port de Dar es Salaam. Comment on peut expliquer cette situation lorsque l'on sait qu'il y a des gens, des personnalités qui avaient été condamnés, arrêtés dans le cadre du procès des 100 jours du programme du chef de l'État, puis acquittés par la justice? Comment on peut expliquer cette situation, selon vous?
Bon, selon moi, madame, d'abord, nous sommes là en présence de précipitations. Il n'y a aucun élément concret aujourd'hui qui peut nous faire croire qu'effectivement, l'information qui circule depuis 2-3 jours dans les réseaux sociaux serait authentique.
Il y a eu une correspondance.
Oui, mais qui a vu ces correspondances, madame? Les avez-vous vues? Parce qu'il faut qu'on fasse très attention avec des montages faciles dans des cybercriminels. Ou
vous
des
pensez que c'est un montage?
Jusque-là, nous n'avons pas vu un seul communiqué officiel ni une correspondance officielle des autorités tanzaniennes adressée aux autorités congolaises qui soutiendraient ce qui circule jusque-là dans les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je souhaiterais que chacun de nous puisse rester prudent.
Mais c'est pas la première fois, Maître Georges Kapiamba, que le gouvernement tanzanien menace de vendre ses maisons préfabriquées.
Quel est le document? Ces maisons, ces soi-disant maisons préfabriquées, seraient dénombrées à combien? C'est combien? Quand on parle de 200, j'apprends 200 containers, dont chacun contiendrait combien de maisons? Donc tout ça, voilà pourquoi il faut rester vraiment prudent avant de prendre en compte ce genre d'informations qui peuvent être l'œuvre de ceux qui voudraient embarquer l'opinion dans une direction très dangereuse.
Mais au-delà de ça, Maître Georges Kapiamba, comment expliquer que des containers contenant des maisons préfabriquées puissent rester dans un port plus de deux? Pendant deux ans, je dirais, parce que c'est depuis 2020 que ces containers traînent au port de Dar es Salaam.
Alors, si les faits, s'il arrivait que ces faits soient authentifiés, je vous dis tout de suite que c'est pas normal. C'est pas normal, pourquoi? Parce que chacun de nous, plusieurs Congolaises et Congolais, nous avons suivi le déroulement, le débat dans ces procès, et il a été clairement constaté, et les pièces sont là, que dans les cahiers des charges qui avaient été souscrits par la société qui a perçu cet argent, donc la société prestataire, celle-ci avait l'obligation de rendre les maisons préfabriquées dans les lieux bien indiqués, notamment à Kinshasa, au Kanchachi, et que les maisons devaient être montées. Et qu'il était aussi mentionné que la dite société avait obtenu auprès du gouvernement congolais au moins les droits d'exonération, de telle sorte qu'aujourd'hui, il nous semble être vraiment inconcevable qu'on puisse parler encore du blocage de quelques matériaux quelconques pour non-paiement de frais de douane ou d'entreposage sur le chemin de transit. Et donc, ceux qui ont perçu les 57 millions doivent justifier de quelle manière la dite somme a été utilisée et qu'est-ce qui ferait que ces maisons, ce soi-disant maisons, puissent être encore bloquées dans les ports qui sont indiqués, parce que nous n'avons pas d'éléments aujourd'hui objectifs pouvant nous faire croire qu'effectivement, il y en aurait quelques maisons dans les 10 ports.
Maître Georges Kapiamba, Vital Kamere, ancien directeur du cabinet du président de la République, et l'homme d'affaires Sami Djamal avait été condamné par la justice congolaise dans cette affaire de construction des maisons préfabriquées avant d'être acquitté par la même justice. Avec ce développement, avec cette affaire des menaces du gouvernement tanzanien, est-ce que cela ne vient pas renforcer l'innocence de l'ancien directeur des cabinet de Félix Tshisekedi?
Non, je crois voilà pourquoi il faut qu'on soit prudent. Ça ne peut pas non plus renforcer l'innocence de qui que ce soit. Le fait d'être acquitté ne voudrait pas dire qu'on est innocent. Ça peut être le fait tout simplement que les preuves qui avaient été présentées n'étaient pas suffisantes pour convaincre la conviction du juge à la culpabilité. Ça ne veut pas tout simplement dire qu'il n'y a pas eu des faits graves qui peuvent avoir préjudicié les intérêts de l'État congolais. La preuve, c'est que nous les mentionnons, les cahiers des charges est là, il avait été signé par la société prestataire, les cahiers des charges mentionnaient clairement que pour ces objets, il n'y avait pas de droit de douane à payer. Mais que dans les 57 millions, tous les frais, notamment des frais de transit, d'entreposage, jusqu'au lieu de leur livraison, étaient déjà pris en charge. Mais que la société prestataire nous dise aujourd'hui que je ne suis pas en mesure d'acheminer ça jusqu'au lieu de la délivrance, à ce moment-là, ça pose un problème de responsabilité à sa charge.
Est-ce que le gouvernement congolais ne peut pas récupérer ces conteneurs qui traînent au port de Dar es Salaam? Parce que si aujourd'hui la Tanzanie met à exécution sa menace, c'est le Congo qui perdrait, Maître Georges Kapiamba.
Oui, ça veut dire tout simplement, sur le plan de la responsabilité civile, celle-ci doit être imputée à la société ou aux sociétés prestataires qui ont perçu l'ensemble de sommes d'argent qui étaient nécessaires et jugées nécessaires dans le cadre du contrat qu'elles avaient signé avec l'État congolais pour acheminer les matériaux jusqu'au lieu bien indiqué dans les dits contrats.
Pour vous, donc, ce n'est pas de la responsabilité du gouvernement de récupérer
le gouvernement, à travers son trésor public, tous nous avons suivi, nous avons même des pièces, a eu à s'exécuter de manière complète en mettant à la disposition audite société la somme de 57 millions de dollars. Madame, je vous informe que faudrait que les gens le sachent, qu'en dehors de 57 millions de dollars, le trésor public a sorti aussi 10 millions de dollars comme frais devant accompagner l'exécution ou le suivi de ces contrats. Et donc aujourd'hui, à mon avis, l'État congolais ne doit plus rien à ces sociétés. S'il est établi que la société n'a pas amené les biens pour lesquels elle avait reçu les 57 millions, je crois, sur le plan civil, elles devront faire l'objet de poursuites, des condamnations avec des saisies. Même si on pense que on aurait réglé l'affaire sur le plan pénal, mais ils doivent mettre en tête le fait que sur le plan civil, ils devront faire l'objet de poursuites et de condamnations et ils doivent payer. L'État doit prendre ses dispositions pour aider la République à récupérer soit les 57 millions ou soit les biens en contre-valeur.
Ernest Mpararo, secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, LICOCO en sigle. Vous êtes aussi le point focal en RDC de l'ONG Transparency International. Quelle lecture vous faites de cette situation?
Oui, merci beaucoup madame. Je tiens à saluer d'abord Georges pour son intervention. Et effectivement, bon, c'est du gâchis. Et les gouvernements, l'État congolais, les policiers, les militaires ont perdu de l'argent. Ils ont perdu des maisons qui devraient leur être allouées. C'est vraiment du gâchis. Pourquoi? Parce que on a privilégié la politique au lieu de privilégier la technique. Au niveau de notre organisation, nous pensons qu'effectivement, comme Georges venait de le dire, c'est Jamal qui doit effectivement dédouaner tous les conteneurs et les acheminer là où on devrait les acheminer, au Kasaï, ici à Kinshasa et ailleurs. Donc, étant donné qu'au niveau pénal, ils ont été blanchis, effectivement, il reste l'aspect civil. Et l'aspect civil peut être, aujourd'hui, on peut demander, le gouvernement doit demander à Jamal et à son entreprise de faire venir tous les conteneurs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu l'argent. Vous vous souvenez même qu'on nous avait dit que Mouima avait reçu plus de 2 millions de dollars, non? Pour aller où? Pour aller à Matadi. Et d'ailleurs, lui-même a témoigné. Il a témoigné qu'il était parti en Tanzanie, qu'il était parti à Matadi avec les 2 millions. Alors aujourd'hui, nous faire sortir des arguments soi-disant que les maisons n'ont pas été dédouanées, ça c'est de la mascarade. Nous pensons effectivement que comme c'est Samibo et Jamal qui ont reçu l'argent pour acheminer les conteneurs, pour construire tout, c'est à lui que le gouvernement doit demander pour qu'il termine son travail. D'ailleurs, selon moi, on ne devrait même pas l'arrêter. On devrait demander à Jamal, bon, vous êtes en retard, qu'est-ce qu'ils font? On lui donne les délais, il termine tous les travaux. Quel est l'intérêt de son arrestation? C'est parce qu'on a soupçonné qu'il y avait des faits pénaux. Et le fait pénaux, c'est qu'il avait donné des commissions retour à celui qui lui a donné le contrat. Mais le fait qu'on n'a pas pu prouver, là, donc le fait pénaux est supprimé, il reste maintenant des faits civils. Et c'est ce que Georges venait de le dire, Le fait civil, c'est que Samibo et Jamal, ils doivent terminer, dédouaner et tout. S'ils ne dédouanent pas, il a des biens ici en RDC, on peut saisir tous ces biens-là.
Entre-temps, ces maisons préfabriquées sont en train de moisir au port de Dar es Salaam. Et il n'y en a pas seulement au port de Dar es Salaam. Selon nos sources, il y a d'autres conteneurs qui traînent en Angola et même ici à Matadi en RDC.
Effectivement, c'est ça. C'est Jamal qui était, c'est Samibo qui était la société qui avait reçu les contrats. Et c'est la société, on lui a payé tout l'argent. Et on a même suppléé. Vous vous souvenez, où est parti l'argent de Mouima? Mouima avait des comptes. On nous a dit que Mouima avait des sacs d'argent. L'argent a été pour faire quoi? C'était pour payer. L'exonération était pour dans les ports congolais. Mais au niveau administratif, au niveau de Dar es Salaam et de l'Angola, on devait payer de l'argent. Et je pense que c'est cet argent-là de Mouima qui devrait être payé. Mais maintenant, aujourd'hui, nous faire dire, écoutez, que ça traîne, le gouvernement n'a pas payé, alors que Jamal est ici en RDC, Jamal est au Congo, on connaît sa société, on constate effectivement que le gouvernement ne veut pas que les policiers et les militaires aient des maisons. Parce que si un gouvernement responsable sait qu'on a besoin des maisons pour les militaires et pour les policiers, et on doit appeler Jamal à l'immédiat même et lui dire, mon cher, tu as reçu l'argent et tu dois terminer les travaux.
Professeur Jean-Claude Tshilumbayi, député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation, vous, comment vous expliquez cette situation?
Oui, madame, je me souviens qu'au moment du procès, dit procès de 100 jours, M. Jamal a repris à plusieurs reprises qu'il avait des maisons préfabriquées dans les différents ports à travers l'Afrique et le monde, y compris au Congo, et qu'en ce moment précis, tout ce qu'il demandait à la justice congolaise, c'était de pouvoir donner l'accès pour qu'il s'attelle à devoir faire parvenir ces maisons afin de finaliser le travail, comme lui-même l'envoyait toujours au Kanchatch, aller voir au Kanchatch, aller voir au Kanchatch. Mais ici, ce qu'il convient de noter, c'est d'abord, comme Maître Georges Kapiamba, que je salue en passant, a souligné, c'est une certaine prudence. Nous, c'est des faits que nous avons appris dans les médias, bien évidemment, que on peut les assimiler à la réalité si on les recoupe avec les déclarations que M. Jamal lui-même faisait à ce moment précis. Il convient aussi de noter que cette nouvelle révélation vient changer probablement la nature juridique de ce différend ou de ce contentieux. Au pénal, bien évidemment, que le juge pénal ne se verrait pas lié par cet aspect des choses dans son autonomie. Il a plutôt voulu s'atteler sur ce qu'il considérait être le fait infractionnel. Mais à ce jour, l'attribution du marché à Samibo, à Jamal, reste un contrat de marché public conclu entre la République démocratique du Congo et Samibo ou Jamal, sous réserve bien évidemment des vérifications probables de la validité au plan juridique de ce contrat et du respect des prescrits de la loi sur le marché public à ce jour. Et ce doit être le pouvoir de juridiction administrative. Mais ici, c'est question de dire que lorsque l'État signe dans ces conditions avec un partenaire privé, il s'agit des marchés publics et que l'État y conserve, ou l'État congolais, bien évidemment, l'administration y conserve des prérogatives bien étendues et qu'on qualifie de prérogatives de puissance publique. C'est dans ce sens que j'imagine qu'il n'est pas tard. Du fait que, au plan pénal, qu'on ait blanchi ou qu'on ait acquitté les prévenus, ça ne signifie pas que de l'ordre de l'exécution du contrat de marché public, qu'on en soit aussi à l'extinction de réclamations probables ou des exigences qui appartiennent à l'État congolais. Parce que dans ces prérogatives exorbitantes du reste des puissances publiques, il est reconnu à l'administration le droit de suivre le marché, le droit de modifier, y compris unilatéralement en cours d'exécution et d'en changer les modalités, mais aussi le droit d'éteindre unilatéralement, moyennant probablement
indemnisation adéquate.
Professeur Jean-Claude Chilumbay, vous êtes revenu sur les propos de l'homme d'affaires Sami Jamal qui confirmait que les maisons préfabriquées commandées étaient bel et bien achetées, étaient entreposées dans les ports de Lobito-Nangola et Dar es Salaam en Tanzanie. Est-ce qu'on peut conclure que le procès avait été organisé un peu dans la précipitation où il y avait une intention derrière l'organisation de ce procès?
Je ne suis pas très qualifié de tirer pareille conclusion. Je n'ai été ni juge ni conseiller dans l'affaire. Mais j'estime que la crédibilité d'une société qui a pu accéder à un marché aussi important dans un état de droit comme le nôtre se vérifierait notamment par le fait que même dans l'absence de son directeur général, la société continuera à faire ce travail. Parce que Jamal, lorsqu'il se plaignait devant le juge criminel, tout ce qu'il demandait, c'était qu'on le laisse partir pour finaliser ses travaux. Ce n'est pas le Jamal, l'homme physique en réalité, qui serait en mesure d'exécuter ses travaux si le marché avait été correctement attribué à une société bien qualifiée pour le faire. Ça signifie que même du temps de son calvaire en prison, cette société devrait rester opérationnelle en train de s'exécuter de ses engagements souscrits vis-à-vis de l'État congolais, je dis bien, dans un contrat de marché public avec des attributions pour chacune des parties, mais bien évidemment avec des prérogatives autant exorbitantes de la puissance publique que l'État. On ne peut pas justifier tout cela et en arriver à dire que le procès avait été précoce, ça c'est pas moi qui peux qualifier les faits, mais je dis seulement qu'il faut être en mesure de séparer la responsabilité pénale engagée au terme de ce que le parquet ou le tribunal avait estimé être une infraction, une atteinte à l'ordre moral établi en matière notamment de gestion des deniers publics et la responsabilité du point de vue administratif, qui est un engagement qui échappe à la rigueur du juge pénal, mais qui confère à l'État jusqu'à aujourd'hui la possibilité de pouvoir poursuivre l'exécution de ce contrat, n'en déplaise la décision du juge pénal, encore que ce n'est pas en contradiction.
Alors aujourd'hui, il y a cette menace de la Tanzanie. C'est le gouvernement qui doit faire pression sur la société Samibo afin d'aller récupérer ou d'acheminer ses conteneurs vers la RDC. Comment ça devrait se passer?
C'est cette autre clarification que probablement personne de nous trois qui intervenons ici n'a, parce qu'à entendre Maître Georges, Kapiamba lui aussi a dit qu'il n'a pas tous les contours de ce nouveau débat qui s'invite ce jour, notamment cet ultimatum. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'État, s'il est convaincu que l'argent de dédouanement avait été intégralement versé à ce souscripteur, à celui qui avait gagné le marché, l'État détient des parts de vers lui de pouvoirs énormes qui sont, comme je le répète, des prérogatives exorbitantes de puissance publique et qu'il n'a probablement pas besoin d'aller devant le juge pour devoir contraindre, même s'il peut le faire encore, pour devoir contraindre Samibo à s'acquitter intégralement et parfaitement de ses engagements souscrits au terme de ce contrat public.
Merci, professeur Jean-Claude Chilumbay. Les auditeurs aussi ont leur point de vue à donner par rapport au débat de ce soir. On va se rendre à Bukavu pour écouter cet auditeur qui nous appelle.
Cette situation prouve à suffisance que le pays va mal et que l'opérateur économique Jamal disait la vérité. Je suis ononça. Ainsi donc, ceci est une démonstration que le fameux procès alias des 100 jours n'était qu'une mise en scène et que les incriminés devraient être dédommagés sans condition. Ce qui est drôle, c'est que les incriminés ont été libérés, mais on nous a jamais dit la suite, c'est quoi. Une nouvelle procédure devrait être mise en place pour l'évaluation de ce fameux projet, afin d'éclairer l'opinion quant à cela. Sinon, Nous pouvons également croire que la politique peut nous jouer pour montrer à la face du monde que réellement Vital Kamerhe n'y était pour rien, afin qu'il n'y ait pas de lamentation aussitôt jouée à nouveau un rôle dans ce pays, comme avait promis le président de la République.
Maître Georges Kapiamba, que pensez-vous de ce point de vue de Gilbert?
Le compatriote Gilbert, je pense qu'il se perd dans des considérations qui n'ont rien à voir avec ces marchés pour lesquels le Trésor public a déboursé 57 millions de dollars qui ont été touchés par les sociétés prestataires, sans oublier les 10 millions que j'ai indiqués, ce qui fait 67 millions. On ne peut pas partir tout simplement des conclusions du juge pénal pour considérer que ça a été une histoire montée de toutes pièces. Les marchés étaient bel et bien passés. Monsieur Jamal, lui-même, nous l'avons suivi, il a reconnu avoir perçu l'entièreté de la somme convenue avec l'État congolais pour enfin fournir ses logements. Alors, maintenant que cela n'est pas fait, il revient au gouvernement congolais d'activer les dispositifs juridiques pour le contraindre, M. Jamal, ainsi que ces sociétés qui ont perçu cet argent, à devoir s'exécuter de manière parfaite. Ça, c'est obligatoire. Parce que même lorsqu'on parle des frais qui devaient être payés, je crois qu'il faut qu'on soit prudent. On ne peut pas payer lorsqu'on importe de la marchandise pour la RDC, même si ça passe par les ports de la Tanzanie. On ne dédouane pas en Tanzanie. On paye à la limite des frais de transit ou les frais d'entreposage, des manutentions, parce qu'il faut les transbordements du bateau, du navire, vers les camions qui doivent transporter, ainsi de suite. Les frais de dédouanement ou des douanes devaient être payés à la frontière de la RDC. D'ailleurs, ces frais-là ne devaient pas l'être, étant donné que tout était exonéré. L'État congolais, le gouvernement congolais avait consenti l'exonération de tous ces frais. Donc, restons vigilants, ne cédons pas à cette soi-disante menace des autorités tanzaniennes, même s'il y a des menaces, ça n'a rien à voir avec l'État congolais. Ça doit être géré par M. Jamal ainsi que ses sociétés qui avaient importé les 10 biens. Reste d'abord à savoir si c'est les 10 biens se trouvent bel et bien dans les 10 ports.
Maître Georges Kapiamba, une certaine opinion pense que pour laver l'image de la RDC, le gouvernement congolais devrait payer ses frais, tous ses frais d'entreposage, quitte à la société Samibo de rembourser les frais qui seront engagés par l'État congolais. Est-ce possible?
Non, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi l'État congolais va-t-il payer? Pour quelles raisons? L'État a agi aussi dans le domaine des marchés en commandant des biens. Mais la personne, les sociétés qui ont souscrit aux conditions établies par l'État congolais, qui ont perçu de l'argent provenant de l'État congolais, doivent assumer leurs responsabilités. L'État ne doit plus payer quoi que ce soit. Et pour ça, je crois que les Congolais et les Congolais, nous devons nous opposer à une quelconque autre démarche de la part de notre gouvernement qui tendrait à verser encore un seul sou à M. Jamal ainsi qu'à ses sociétés. Ces derniers doivent prendre leurs dispositions pour exécuter leurs obligations, étant donné qu'ils ont déjà perçu 57 millions de dollars.
Ernest Mpaharo, on va se rendre cette fois-ci à Mbujimayi pour écouter cet autre auditeur qui nous appelle.
Nous, c'est Kassongo Nyembo Patrick, depuis la ville de Mbujimayi au Kassai oriental. Par rapport à cette situation, je crois que c'est une interpellation pour la classe dirigeante de notre pays et du gouvernement congolais qui doit, dans sa souveraineté, développer et enraciner la notion de la bonne gouvernance qui est le thermomètre d'un développement durable d'un pays. L'intérêt supérieur de la nation se définissant par l'observation du principe sacro-saint de rédévabilité, raison pour laquelle le prochain 100 jours n'a rien servi de modèle et la Tanzanie s'est servi de la faiblesse de l'appareil judiciaire pour prendre cette décision. C'est tout simplement dire que le programme d'urgence du chef de l'État n'était qu'un fiasco qui a aidé une catégorie de personnes en s'enrichir indûment et illicitement sans trace et ou avec trace mais difficile à dénicher pour quelque raison que ce soit. Le gouvernement doit se montrer responsable pour ne pas gaspiller l'argent du contribuable. On doit cesser de rendre ou de distribuer la justice à la tête du client et suivant les liens sociaux familiaux. Le gouvernement doit aussi recruter de nouveaux magistrats, les former autrement pour qu'ils puissent servir le pays autrement suivant les valeurs morales, sociales et déontologiques. Il faut aussi payer des dettes pour se laver de cette honte qui nous humilie.
Ernest Mpararo.
Effectivement, mon frère Patrick de Moudjima, il a brossé un peu toute la situation de gouvernance. Effectivement, les hommes politiques doivent être conscients que sans la bonne gouvernance, sans la lutte contre la corruption, aucun projet de développement ne peut réussir. Deuxièmement, effectivement, le gouvernement devra être responsable. Lorsqu'il fait passer les marchés, on doit privilégier les contrats. Parce que dans le cas des procès de 100 jours, qu'est-ce qu'on a constaté? Effectivement, nous, au niveau de notre organisation, nous avions constaté comme si les magistrats n'avaient pas une expertise pour mener une instruction ayant trait à la corruption. Je prends un seul cas. Jamal reçoit l'argent. L'argent est versé dans les comptes de Jamal. Mais on dit, le procureur dit que non, c'est Kamere qui a détourné. Pourquoi? Parce que Kamere a donné les contrats. Le procureur, nulle part, le procureur nous a dit que l'argent que Jamal a reçu, Jamal a rétrocédé à Kamere. Et je pense que c'est cette conviction-là qui a fait que les juges au niveau de la peine, ils ont blanchi Kamere. Pourquoi? Parce que en matière de détournement ou en matière de contrat commercial, il y a infraction pénale que lorsque celui qui a reçu le marché rétrocède quelque chose. C'est ce qu'on appelle commission retour. Lorsque celui qui a reçu le marché, il donne un cadeau, il donne de l'argent, il favorise à un poste, donc le favoritise. Donc c'est dans ce cadre-là et le procureur doit démontrer cela. Mais dans le procès de 100 jours, le procureur n'avait pas démontré cela. Et c'est ce qui a convaincu les juges en appel de blanchir Kamere. Mais est-ce que même si on a blanchi Kamere, même si on a blanchi Jamal, est-ce que Jamal ne doit pas continuer à exécuter ses obligations? C'est là où je rejoins Georges pour dire aussi que malgré qu'on les a blanchis tous, Jamal doit justifier les 57 millions. Jamal doit venir avec l'argent et il doit terminer la construction. Les militaires ont besoin de ces maisons-là. Les policiers ont besoin de ces maisons-là. J'appelle le ministre de la Justice qui nous suivent actuellement d'appeler Jamal et de dire à Jamal, écoutez, vous devez remplir ces obligations. Il n'y a pas à aller gauche-droite. Le gouvernement ne peut pas payer même pas un franc. Pourquoi? Parce que Jamal a reçu tout l'argent et Mouima a reçu encore de l'argent. Ces gens-là sont ici. Qu'on les appelle, qu'ils disent, qu'ils viennent, qu'ils disent là où se trouve cet argent. S'ils n'ont pas cet argent, on saisit leurs biens et on va voir comment est-ce qu'ils vont rembourser. C'est comme ça que les autres pays font. Mais actuellement, le gouvernement est silencieux, le ministre de la Justice est silencieux, on ne sait pas si le projet va réussir, alors que nos officiers militaires, nos policiers ont besoin des maisons. Qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle, après ces débats? Nous pensons que le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, d'ailleurs je propose à Georges que nous puissions aller voir le ministère de la Justice pour qu'ils appellent Jamal et lui dire, écoutez Jamal, toi tu as reçu l'argent, tu dois nous donner les maisons préfabriquées. Bout, point barre. Il n'y a pas gauche-droite. Donc, vraiment, je rejoins dans le point de vue de Georges, on ne doit pas payer même pas un franc.
Professeur Jean-Claude Tshilumbayi, cet auditeur de Mbujimayi que nous avons suivi parle d'une interpellation du gouvernement congolais qui doit, dans sa souveraineté, développer et enraciner la notion de bonne gouvernance.
Et ici, il se pose résolument un problème de transparence dans les procédures, surtout d'attribution
des marchés
publics. Ça, c'est une évidence. Il faudra qu'il soit tenu rigoureusement l'application des principes de transparence lorsque des autorités s'engagent dans des marchés publics et que les structures compétentes en la matière doivent être aussi actives pour empêcher que l'on se retrouve dans des contrats qui manifesteraient ou qui afficheraient un certain flou à la prochaine, parce que là, il ne faut pas que l'on s'insère dans l'idée que le verdict du juge pénal a ainsi éteint les droits non recouvrables de l'État congolais. C'est là que j'ai dit et je reste de cet avis que le procès pénal est éteint. Il était isolé du contenu de l'exécution des travaux en soi, parce qu'il a été l'initiative du parquet dans son métier, dans ses attributions de quête de recherche de l'infraction. Mais ici, maintenant, il y a un contrat qui a été signé, c'est un contrat de marché public qui continue, qui doit s'appliquer conformément à la loi sur les marchés publics et aux droits législatifs congolais en vigueur. Donc, Jamal doit continuer avec les travaux. S'il ne continue pas, il est de bon aloi que l'État congolais s'active à lui appliquer le droit administratif applicable en la matière et qu'il lui fasse payer. Moi, je ne suis pas non plus d'avis que l'État congolais débloque de l'argent à ce moment, à moins qu'il soit prouvé. Je dis, j'insiste, que l'État avait encore un engagement à pouvoir dédouaner. C'est bien. J'ai même aussi appris qu'il y avait des exonérations dans cette affaire, et tout cela n'a pas été clair, c'est vrai. Le juge qui était saisi de la question n'était pas un juge spécialisé en la matière. On ne pouvait pas ouvrir toutes les voies de contrôle de l'exécution efficiente de ce marché. Il est arrivé le moment, j'ai dit, où l'on peut même se passer du juge, parce que les pouvoirs administratifs dont bénéficie l'État congolais en la matière peuvent permettre qu'il récupère sans trop de casse ce qui a été perdu et que ces travaux s'achèvent effectivement. Nous ne sommes pas d'accord avec, le président de la République lui-même l'a dit, qu'il n'est pas un chef de chantier inachevé et qu'il faudra que le ministère et le département des États en charge de cette question s'activent avec rigueur pour que très rapidement que les Congolais voient ou revoient l'exécution de ce temps.
Alors, professeur Jean-Claude, on va prendre très rapidement ce dernier auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kananga. Puis je vous redonne la parole, ce sera pour votre conclusion.
Kibelaï Norbert, en Kananga, au Kasai Central. L'annonce du gouvernement tanzanien vient confirmer ici la thèse selon laquelle le procès de 100 jours, le fameux procès de 100 jours, était un procès et la justice de notre pays était prise en otage. Dès le début de ce fameux procès, l'homme d'affaires libanais Jamal disait toujours que les maisons préfabriquées commandées ont été bel et bien achetées et étaient entreposées au port de Lobito en Angola et Dar es Salaam en Tanzanie. Il appartient maintenant donc à l'État congolais de prendre toutes les dispositions en instruisant les ministres ayant les finances dans ses attributions afin de désintéresser l'État tanzanien en payant les frais d'entreposage et de douane. Au cas contraire, c'est l'État congolais qui sera le grand perdant et vu le coût même que ces maisons ont coûté, ceci démontre qu'il y a un manque de volonté politique.
Professeur Jean-Claude Tshilumbayi, cet auditeur de Kananga que nous venons de suivre ne partage pas votre point de vue. Il pense plutôt que le gouvernement devrait sauver les meubles.
Je salue mon compatriote et frère de Kananga chez moi. Je continue d'écarter toute idée d'un procès politisé, et surtout politisé en défaveur de prévenu d'alors, parce qu'il a été tantôt prouvé que la justice elle a fait son travail jusqu'au bout, de la même façon qu'il y a eu dans cette cause de jugement que les prévenus ont considéré des politiques. Il y a eu aussi dans cette cause des jugements qu'ils ont salué comme le reflet exact et réel de l'effectivité de l'État de droit. Mais ici, je demande à nos compatriotes, j'insiste, de faire le distinguo entre les volets pénals de cette question, qui est tout simplement le fait que le parquet, dans ses missions de rechercher les infractions, a trouvé que soit il y a eu un marché, mais qui a été conclu dans une certaine manœuvre avec un certain dol, ça c'est pas moi qui le conclue, et le fait qu'il y a un contrat qui doit s'exécuter. Maintenant, il appartient soit à Jamal de saisir le juge pour faire rectifier ce contrat ou le faire annuler au cas où il estimait que c'est le gouvernement, c'est l'État congolais qui a failli dans ses engagements. Mais pour le moment, c'est ça qui doit être retenu des marchés publics, encore que peut-être qu'on dise ou peut-être qu'on vienne dire que ce contrat n'était pas un contrat de marché public et qu'il était conclu selon d'autres formules non instituées en République démocratique du Congo jusqu'ici et qui rappellera encore qu'il y a eu une volonté de tricher. Mais ici, s'il y a réellement eu un contrat qui a attribué ce marché à Jamal, le contrat n'a pas été éteint par le procès pénal. Le contrat doit s'exécuter en toutes ses dimensions possibles pour que l'État congolais et le peuple congolais retrouvent ce qu'il a dépensé et ses attentes légitimes soient ainsi satisfaites dans le cadre de ce qu'il voulait résoudre comme problème.
Merci, professeur Jean-Claude Tshilumbayi. Maître Georges Kapiamba, ça sera aussi votre conclusion. Comment décompter cette situation?
C'est brièvement. Bon, rapidement, cette situation nous permet quand même, en rentrant à la question de la transparence et des responsabilités de nos dirigeants, qui doivent savoir qu'à l'avenir, il faudrait qu'ils respectent les lois. Parce que dans les contrats ici avec M. Jamal et de sa société, les critères notamment de la capacité professionnelle, technique et financière, principalement la garantie de la bonne exécution, n'avaient pas été pris en compte. On a donné un marché de 57 millions de dollars à une société qui venait à peine d'être créée. Ça ne faisait pas plus de 2 mois, avec comme capital qui était mentionné dans leur titre de plus ou moins 4 000 $. Et donc il faudrait que nos dirigeants deviennent réellement responsables, patriotes, et qu'ils voient plus l'intérêt général au lieu de signer n'importe quel genre de contrat pour tout simplement viser de gagner leurs propres intérêts.
Merci, Maître Georges Kapiamba, Ernest Pararo. Votre conclusion?
Oui, effectivement, comme les deux collègues venaient de le dire, il faudrait effectivement que les lois, que les dirigeants, que les hommes politiques respectent les procédures, les lois du pays. Le procès 100 jours nous a montré effectivement que sans transparence dans les processus de passation des marchés, nous arrivons toujours aux échecs. Et c'est là la situation. Et lorsqu'on donne des marchés à des amis, on donne des marchés à des copains, on arrive toujours à des situations pareilles. Donc, il faudrait effectivement que les hommes politiques s'engagent publiquement à combattre la corruption et à promouvoir la gouvernance pour l'intérêt de tout le monde.
Merci Ernest Pararo, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé. Alain Goy était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bata Sebujangoy a supervisé cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.